disait hier qu'il ne s'attend pas à ce que le Canadien joue devant des spectateurs cette année. Jeff Molson avait exprimé le souhait que ça puisse se faire. Pendant ce temps-là, à Ottawa, les sénateurs souhaitent jouer devant 6000 personnes aussitôt qu'ils obtiendront le feu vert de la province. Y crois-tu à des spectateurs pour des matchs de la Ligue nationale de hockey d'ici la fin du calendrier, Ray?
Non. Et puis, je dis ça de façon équilibrée, Mario. C'est sûr qu'on le souhaite pour le bien-être financier des équipes. C'est important, les spectateurs, les achats de billets, la consommation qui se fait lors des matchs, les revenus de match. Ça implique beaucoup, beaucoup d'argent, Mario, qui minimise les nouveaux revenus de publicité sur des casques ou de noms de division. Alors, on est tous d'accord que la santé du hockey dépend immédiatement, là, des revenus supplémentaires occasionnés par les ventes de billets. Cependant, si on veut poursuivre et si on veut exister dans le marché sportif, dans l'environnement actuel, dans le paysage, on a juste à regarder un peu ce qui se passe. Tu l'as mentionné tout à l'heure avec les gars. T'sais, la NFL va finir sa saison. Ça n'a pas été facile, mais ils ont persévéré. Mm-hmm. Le baseball a joué l'été dernier, mais l'été dernier, c'était déjà un ralentissement là, au niveau de la COVID. Là, leur défi à eux, c'est de commencer au mois de février prochain.
Oui.
Ce ne sera pas facile. Mais le basketball, là, tu le vois, là, en parallèle avec le hockey. Les Celtics, 4 matchs de remis déjà. Il y a des cas partout. 9 équipes sont affectées actuellement.
Je pense que c'est de partir qui est difficile. Oui. On l'a vu dans tous les circuits, oui. N'est-ce pas? Et là, eux autres, ils repartent, puis ils ont décidé de repartir pendant le temps des fêtes. Je pense que le degré de difficulté était plus élevé à cause de ça.
Ils ont commencé le 1er décembre. Ouais. La première semaine du camp d'entraînement, 1er décembre, puis là, ils ont eu une cinquantaine de tests positifs sur à peu près 550, à peu près 10 %. Puis graduellement, une semaine à la fois, ils ont emmené ça jusqu'à zéro. Bon, là, la saison a commencé, et là, c'est reparti. Et la conclusion, Mario, c'est littéralement à cause des déplacements et à cause des allées et venues des joueurs quand ils sont à la maison et aussi quand ils sont dans les hôtels, même si on avait établi une liste de restaurants. Aujourd'hui, la NBA a annoncé que c'est fini les visiteurs. Même, on parle de visiteurs, on parle pas de gens dans la rue. Là, on parle de familles proches ou amis depuis longtemps dans les chambres d'hôtel des joueurs sur la route. Et il n'y a plus de déplacement. Lorsqu'ils sont sur la route, ils doivent rester dans leur hôtel. Parce que là, on doit augmenter, resserrer, si on veut, les consignes. Bon, le hockey commence. C'est fort probable qu'on voit des situations comme dans la NBA où il y a plus de cas qu'on prévoyait. Écoute, ce week-end dernier, les Celtics et les Sixers, séparément, là, ont joué des matchs avec 7 joueurs en uniforme, Mario.
Oui, oui.
Bon,
oui.
Alors, mettons qu'on arrive dans l'hockey, puis 7-8 joueurs d'une équipe, ça veut dire que même ton équipe...
Mais c'est pour ça que tu as le taxi squad, là.
Oui, mais ça sera pas suffisant. Il y en a 5-6 sur cette équipe-là, mm-hmm. Y compris un gardien.
Oui.
Fait que si jamais tu en as 7-8 d'une équipe, comme ce fut le cas là avec les Stars de Dallas et les Blue Jackets vendredi dernier, 19 absents lors de l'entraînement. Bon, ce que je veux dire, c'est que je pense que les spectateurs, ça sera plus tard. Peut-être en série, tu sais, mai, juin, mm-hmm. juillet, peut-être. J'en doute pour la saison. Même des villes qui avaient été autorisées localement, je pense au Lightning, y compris les Raptors à Tampa, ont dû annuler les ventes de billets à partir de la semaine dernière jusque pour un mois.
Oui.
Il y a encore des équipes de la Ligue nationale, dont les Coyotes et les Panthers, qui pensent attirer des spectateurs, quelques milliers ici et là. On se prépare pour le Super Bowl le 7 février prochain en Floride avec la possibilité d'avoir 20 000 spectateurs. Puis hier soir, au match de championnat national entre Alabama et Ohio State, il y avait une vingtaine de milliers de spectateurs dans un stade de 65 000 à Miami.
D'ailleurs, c'est toujours un petit peu déroutant. On a vu ça dans la NFL aussi en fin de semaine. C'est-à-dire qu'il y avait des matchs où il y avait 2 000 personnes. Il y en a qui n'en avaient pas. Puis il y en a, je pense qu'il y avait une place où on était à 21 % de la capacité. Ça donnait à peu près 14 000. Mais ça fait bizarre pareil, hein, de juste d'entendre des vrais bruits qui ne sont pas des bruits de EA Sports pendant les retransmissions de matchs en direct.
Oui, oui. On se rapprochait, là. Puis là, tu sais, ça va être encore réduit à zéro bientôt. Puis ce qui est difficile là-dedans, c'est que les ligues ne veulent pas assumer cette décision-là de spectateurs, Mario, parce que ils veulent laisser ça aux autorités locales, par État, mm-hmm. aux États-Unis, ou provinciales ici. Et je comprends pourquoi, parce que c'est un peu de politique. Ils veulent pas être ceux qui disent non aux équipes lorsque des équipes pourraient potentiellement générer des revenus. Alors, la Ligue veut pas le faire. La Ligue met en place les consignes, la Ligue doit gérer les cas, mais au niveau des ventes de billets, ils veulent pas trop se mêler directement, parce que sinon, on pourrait dire à toutes les équipes, les 31, pas de spectateurs avant telle date. Et ça serait uniforme. Mais non, c'est parce que chaque État présente des situations de COVID différentes d'un État à l'autre.
En tout cas, ça n'a pas été facile d'atteindre l'unanimité chez les propriétaires et gouverneurs de la Ligue nationale d'hockey quant à l'importance et la pertinence de jouer un calendrier même réduit. Absolument. Cette année, à travers la pandémie, il y a plusieurs écrits là-dessus. Il reste que, et Bettman l'a dit dans son adresse à la Nation annuelle, que sans avoir l'air d'un grand altruisme, mais il voulait que les gens sachent que la Ligue nationale va jouer à perte cette année. Il a oublié les joueurs, cependant. Et j'ai vu des reportages de gars qui ont des contact avec des joueurs. Il y a beaucoup de joueurs, semble-t-il, qui sont frustrés que Bettman n'ait pas inclus les joueurs dans son propos. Quand il dit « on va jouer à perte », puis ça se calcule avec le « B billions » au lieu de « millions », le « M », donc en milliards, je ne sais pas si c'est un 2. Est-ce qu'il charrie, puis est-ce qu'il aurait dû inclure les joueurs dans son énoncé?
Oui, il aurait dû inclure les joueurs, mais les joueurs sont des bénéficiaires de l'effort des propriétaires et de Bettman, c'est-à-dire que c'est l'amour du hockey, c'est son message public, là, un peu de PR, c'est pour les fans, pour les consommateurs, pour tout le monde qui s'ennuie du hockey, pour les diffuseurs et évidemment pour les joueurs. Parce que les joueurs, si la Ligue nationale avait opté pour ne pas jouer, ça a des conséquences ça, financières, oui, c'est vrai que Bettman et les propriétaires perdraient probablement moins d'argent à ne pas jouer. Ça, c'est clair, parce que la masse salariale des joueurs, c'est une énorme dépense. Mais en contrepartie, si Bettman ne jouait pas, les joueurs ne seraient pas payés. Et là, eux subiraient directement et personnellement le risque assumé à la COVID.
Ouais. Est-ce que tu penses que d'entendre tous les porte-parole ou les gens interrogés dans les équipes canadiennes qui disent que donc ils jouent pour Julien faisait allusion à la santé mentale des gens, puis je pense qu'ils savent que le sport puis le divertissement ça fait du bien aux gens, mais en même temps, tu penses-tu qu'il y a un pitch concerté stratégique des équipes de la Ligue nationale de façon à peut-être que ça serve d'argument pour ceux qui disent que ben finalement les athlètes devraient être aussi confinés, puis c'est un privilège qu'ils jouent quand on dit ben on joue à perte, puis on joue pour vous divertir, ça passe mieux.
Ben, je pense que c'est un bon point que tu te soulignes là, puis il y a plusieurs tentacules associés à ça. Je pense que c'est un message que tu dois communiquer de façon unanime et conforme et uniforme à travers la Ligue. Alors, tu vois les messages commencent à sortir. Ça, je suis d'accord avec ça. Je pense qu'il faut que tu dises aussi que on fait l'effort pour les partisans. C'est vrai, les partisans existent. Sans partisans, il n'y a pas de business. Donc, c'est un calcul assez rapide pour moi. C'est vrai, ça, que c'est du divertissement. C'est important pour la santé mentale des gens. C'est important pour la réjouissance dans des périodes noires et difficiles. Tous les sports jouent ce rôle-là. Je pense qu'on est droit à s'attendre, Mario, à de bien meilleures cotes d'écoute à tous les niveaux pour le sport. D'ailleurs, la NBA, la première semaine d'activité en décembre, 22 décembre au 29 décembre, c'était 95% plus élevé que la première semaine du calendrier l'année précédente.
Et je te dirais que c'est important pour eux de donner une valeur à leur cote d'écoute et à leurs produits à travers cette pandémie-là, parce que tu peux pas faire d'argent au box-office, faut pas que ta valeur décline.
Non, et puis c'est important pour toutes les raisons de commercialisation, les commanditaires qui investissent un peu plus pour la pub sur les casques, puis les noms des divisions, et aussi pour les négociations qui s'en viennent vis-à-vis les réseaux, dont NBC Sports. C'est pour ça que c'est important de jouer, c'est pour ça que c'est important de, si tu me permets l'expression, manger tes bas un peu, là, parce que ça va être dur avec les cas qui s'en viennent, puis les matchs qui vont être peut-être avec des joueurs en moins, peut-être des joueurs étoiles, mais l'important, c'est de poursuivre la route. Alors, même si, de façon logique, ça serait probablement prudent de prendre une pause dans tous les sports, ça arrivera pas. Donc, sachant ça, maintenant, comment qu'on fait pour bien passer le message qu'on est sensible, puis on a de l'empathie vis-à-vis de la société?
Maintenant, un dossier qui a fait beaucoup jaser, à moins que j'oublie quelque chose dans les sujets qu'on vient d'aborder. Ray, gêne-toi pas
ramener.
Allons-y maintenant avec la faillite d'Evander Kane. Donc, on parle de tout près de 53 millions de dollars de revenus à date dans sa carrière. Et il se place dans une situation de banqueroute, de faillite, là, de l'ordre d'à peu près la moitié du montant qu'il a gagné jusqu'à maintenant. C'est pas un cas unique. Il y a un documentaire intitulé Broke qui a été produit il y a quelques années de cela par ESPN qui met en vedette des gars qui ont empoché des millions de dollars, dont Curt Schilling qui a empoché 115 millions de dollars, qui en quelque sorte est cassé, même je pense qu'il vaut encore un million. Puis il y en a d'autres histoires comme ça, mais comment on peut s'expliquer ça? Comment ça te fait réagir de lire une dépêche comme ça qui te renseigne sur la situation de cet individu-là?
Bien, moi j'essaie d'enlever un peu le focus sur Evander Kane, puis d'emmener ça peut-être à 40 000 pieds d'altitude avec un regard plus éloigné sur un vrai problème qui existe justement dans le sport commercial professionnel. Et c'est un problème d'encadrement pour les athlètes. Tu sais, Mario,
malgré
ça fait longtemps...
Malgré leurs agents.
Oui, parce que ce qui manque, Mario, c'est une méchante opportunité d'affaires actuellement, parce que les joueurs ont un talent à un jeune âge, puis ils mettent beaucoup d'énergie pour développer ce talent, puis essayer de créer une opportunité pour se joindre au rang professionnel puis gagner ta vie. Les carrières sont courtes, la fenêtre est rapide. Il y a beaucoup d'argent potentiellement à faire pour une courte période dans ta vie. Les joueurs n'ont pas nécessairement eu le temps de tout compléter, leur préparation, leur éducation à tous les niveaux. Ils n'ont pas non plus eu le temps de faire, d'avoir une formation au niveau des finances personnelles, la gestion de patrimoine, le risque associé à tout ça. C'est normal, il y a des gens spécialisés pour ça. Bon, certains athlètes sont bien encadrés, à partir de l'agent jusqu'à aux membres de la famille, jusqu'à tous les planificateurs autour d'eux. Et d'autres athlètes ne le sont pas.
Il y en a qui se sont fait organiser par leur propre famille aussi.
Absolument.
Ça va bien tourner. Là.
Je t'appelle de Jack Johnson.
Sanchez Vicario, oui, Jack Johnson également. Puis il y en a d'autres cas. Là.
Absolument. Puis Mario, c'est important de comprendre, encore une fois, quand on regarde le problème à haut niveau, c'est souvent peut-être des cas de maladie, des cas de divorce, des cas de problèmes d'investissement, des fraudes de leur agent, des gars qui ont été irresponsables, qui ont manqué de jugement, puis qui ont pris des mauvaises décisions, qui ont parié. Puis certains, c'est juste le soutien de la famille puis l'argent que la famille siphonne du joueur. Honnêtement, Mario, il y a toutes sortes d'exemples. Mais des joueurs, c'est des business. Alors, Evander Kane, c'est Evander Kane Inc. Oui. Evander Kane Inc. a un bilan à la fin. Puis le bilan, là, c'est des revenus puis des dépenses. Puis à un moment donné, si quelqu'un n'est pas là pour l'aider, ben sa compagnie, sa marque, son nom, ben ça fait faillite, ça fait banqueroute.
Son agent paraît pas bien dans le dossier.
Non.
C'est sûr que c'est pas eux autres qui gèrent sa vie. On dit qu'il y avait des problèmes de gambling. Écoute, c'est sûr que t'as un problème. Tu gagnes 53 millions en quelques années, t'es en banqueroute.
Oui, mais Mario, pour ça, le 53 millions, c'est comme si demain matin, un jeune garçon...
Moins les impôts aussi. Là.
Qui atteignait l'âge adulte, achète un billet de loterie au 649, gagne 62 millions de dollars d'un
coup.
Oui. Quand ça tombe du ciel, là, Dieu sait qu'on n'est pas préparé pour tout ça.
Ben non.
Bon, alors sachant ça, puis en passant, Mario, il y a beaucoup de cas comme ça chez les citoyens communs. C'est
juste
qu'on ne les publicite pas, ces cas-là.
Exactement.
On n'en parle pas parce que ce ne sont pas des célébrités puis des noms qui vendent. Et je rappelle aux gens, encore une fois, que lorsque tu déclares faillite, tu es déjà sur le meilleur chemin. C'est-à-dire que là, tu vas te restructurer. Tu as demandé de l'aide. On s'en va dans la bonne direction. Alors, je veux pas qu'on piétine sur un gars comme Evander Kane.
Je te rejoins. Moi, je parle pas de ça pour qu'on se moque de lui.
Non, je sais. Là.
Exactement.
Mais je veux juste que les gens comprennent que faut pas dire « Ah, c'est un autre millionnaire du sport là qui a gaspillé son argent, qui a tout bousillé. » Oui, mais à la fin, ça arrive à tout le monde. Ton voisin peut peut-être être comme ça aussi, puis tu le sais même pas. Alors, c'est pour ça que je reviens encore sur l'importance de comprendre que l'encadrement pour les jeunes athlètes, c'est vraiment quelque chose qui est la responsabilité des ligues et des clubs. Puis finalement, mon message là-dessus, Mario, c'est que c'est à la ligue et aux équipes, dont les Sharks, par exemple, où évolue Evander Kane, de gérer l'actif pour qu'il soit productif et performant sur la patinoire. Donc, tu dois le protéger contre lui-même.
Mais tu sais quoi? Hier, je posais une question à Marc Bergevin sur s'il y avait des soucis par rapport à ces gars dans la pandémie, les jeunes qui arrivent, tout ça, dans leur condo, tout ça. Puis tu sais, il a comme répondu de façon comme, en voulant dire, de quoi tu me parles, là, tu sais. Puis je veux pas y prêter d'intention, là. Mais genre, non, il y en a pas de soucis, tu sais. Moi, j'étais curieux de savoir. Puis comme, j'ai compris, à moins que Kéké vienne rester chez nous, je peux pas l'appeler, savoir s'il se couche à 10 heures. J'ai comme senti un désengagement. Peut-être que dans le concret, il s'engage plus que ça.
Peut-être. Mais c'est une question aussi philosophique. Moi, personnellement, là, si je gérais une équipe, tu peux être sûr que mes actifs, mes joueurs,
en tout cas, si c'est ça la réalité telle qu'elle est pratiquée chez le Canadien, ça me déçoit un peu. Il n'était pas obligé de me répondre, là. Tu sais, je comprends ça. Tu sais,
non, mais on n'y prêtera pas d'intention, mais je pense à Evander Kane puis son contrat de, c'est quoi, qu'il a signé 7 ans pour 49 millions? Le plus récent contrat?
Je vais te le dire précisément, là. Continue ton argument.
Écoute, 2018, ça fait 2 ans presque, là. 2 ans et demi, là. OK? Il signe ce contrat-là. Ben, j'espère que les Sharks ont compris que s'il était prêt à lui verser une si grande somme d'argent, qu'il devait encore une fois s'assurer qu'il est optimal et prêt à performer puis marquer des buts puis faire son travail sur la glace.
Hey, 84 millions sur 8 ans.
Bon. Non, il
reste,
sérieusement.
Il reste, là, s'il joue cette année, c'est sûr qu'il n'y aura peut-être pas son plein salaire à cause de la pandémie, mais il reste 3 fois 10,5 à recevoir.
Bon. Mario, fais juste penser à l'investissement que ça occasionne. Est-ce que tu vas négliger comme équipe puis dire on va avaler cet argent-là? Non. Occupe-toi de ton actif. Alors, je donne beaucoup de, pas de faute pour le comportement, mais de responsabilité dans l'encadrement aux équipes et aux ligues respectives. Ils ont tous des programmes, il faut qu'ils l'assurent.
Bill Daly le dit, il y a des problèmes de consommation, il y a des problèmes de gambling dans la ligue. Visiblement, il y avait des problèmes avec un des deux, je sais pas si c'était les deux, mais bref. Et les cas semblables sont nombreux. Là, je lisais beaucoup de choses aujourd'hui, puis j'évoquais des gars dont les dossiers ou les situations ont été racontées dans le documentaire de ESPN. Et juste pour ajouter à ce que tu disais par rapport à la durée des carrières, bien, la durée moyenne d'une carrière dans le sport professionnel, là, c'est assez court, 3,3 ans dans la NFL, 4,6 ans dans la NBA, 5,6 ans dans le baseball majeur et en moyenne, c'est 5 ans dans la Ligue nationale de hockey. On dit que 78 % des joueurs de la NFL ont fait faillite ou connu d'importants stress financiers 2 ans après avoir cessé de jouer. 5 ans après leur retraite, 60 % d'entre eux sont cassés. Et ça, c'est des données qui datent pas d'hier. C'est Sports Illustrated en 2009, tel qu'évoqué dans le documentaire Broke. Et Chris Dudley, un ancien de la NBA qui est rendu conseiller financier, il a une longue carrière quand même, dit que 60 % des joueurs de la NBA sont cassés après 5 ans après leur retraite. Il y a une citation qui a retenu mon attention. C'est celle d'un ancien joueur des Steelers de Pittsburgh qui a gagné le Super Bowl avec Terry Bradshaw dans les années 70. Russell Davis, un ancien porteur de ballon qui dit, et là, on en je ne sais pas, des fortunes à cette époque-là, là, pour lui. Il dit, je n'avais jamais échoué à quoi que ce soit avant d'être libéré par les Steelers. Et donc, le premier échec auquel il a dû faire face, c'est l'humiliation qui venait avec, c'est de dire, hey, j'ai plus d'argent qui rentre. Et j'ai tout réussi dans la vie, mais ça, je n'étais pas prêt à ça.
Mais Mario m'a donné deux exemples, là, juste pour te donner le pour et le contre, ou un cas positif et un cas négatif. Quand je pense à des joueurs, puis j'en ai connu là, dans tous les sports que j'ai été, il y a des joueurs de la NBA que je me souviens qui gagnaient des salaires de 10-15 millions il y a déjà 15-20 ans, là, qui étaient littéralement mois par mois, chèque par chèque. Eux autres avaient tellement besoin du prochain chèque le prochain mois, qui était plus d'un million, pour arriver à leur fin.
Imagine.
Parce que l'autre million était dépensé. Bon, dans les bonnes histoires, je pense toujours à trois individus, juste de même, là, qu'on connaît tous. Alex Rodriguez, qui a joué pour les Yankees, qui a fait une fortune, puis qui est devenu par la suite un investisseur immobilier, un investisseur de technologie. Mm-hmm. Il était un commentateur à la télé pour ESPN au baseball. Finalement, il a ouvert l'après-carrière avec 5-6 portes différentes, un grand succès sur toute la ligne. Magic Johnson, pas besoin de te parler de ses investissements avec Pepsi comme embouteilleur, ensuite avec Starbucks, ensuite avec les cinémas, les Lakers, les Dodgers. Magic Johnson, c'est l'exemple ultime de gars qui a mieux réussi. Mais localement, l'exemple qui me vient en tête, c'est Dickie Moore. Dickie Moore est décédé, malheureusement. Oui. Je l'ai bien connu. Dickie Moore, il était un membre du Temple de la Renommée, un gagnant de multiples Coupes Stanley avec les Canadiens, mais encore une plus grosse réussite, Mario, à cause de location Dickie Moore, qu'on voit partout au Québec encore, des années après le début de son entreprise. Quel modèle de persévérance et d'accomplissement d'affaires après sa carrière. Mais entre-temps, Mike Tyson a fait 400 millions, a fait faillite. Allen Iverson, Maradona, Evander Holyfield, puis je t'en passe, là.
Mais tu sais quoi, Ray, en terminant, puis je suis content de t'avoir souligné l'aventure, puis l'expérience, puis ce que Dickie Moore a réalisé. Mais par contre, si t'as une soirée à passer à quelqu'un, à entendre des histoires, je sais pas avec quelle gang tu veux te tenir. Quoi que M. Moore est un bon raconteur, ça l'a dit, là, c'était une autre affaire, puis c'était des bons vivants dans ce temps-là. Mais je veux dire, les histoires de Tyson et compagnie, là, probablement qu'on sauterait le couvre-feu.
Absolument. Et ça serait pas bon pour la radio.
Non, je suis pas sûr. Il y aurait même des bébés. Ray, un gros merci.
Salut Mario, merci à toi.
Bien content de te retrouver pour repartir la machine en 2021. Bye bye, Ray.